Dis-nous, bonjour Didier.
Bonjour Michael, bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, de la politique avec la session de l'Assemblée de Corse, les élus réunis pour balayer un certain nombre de sujets. Nous verrons aussi le patron du groupe Casino en Corse aujourd'hui, Philippe Palazzi, va à la rencontre des syndicats du groupe Codim pour rassurer sur l'avenir des magasins implantés dans l'île. Nous parlerons de tourisme avec Venise qui devient payante. Accéder à la Sérénissime simplement s'y balader aura désormais un coût. C'est un moyen pour lutter contre le surtourisme. Le logement, avec un point sur la situation à Corté, logement étudiant, vrai problème sur lequel les institutions travaillent. Et puis le devoir de mémoire, 5 mai 92, le collectif lance aujourd'hui le programme des hommages aux victimes. Mais ce midi, on pense plus encore à Pierrot et Michel. Beaucoup d'élus absents pour une session de l'Assemblée de Corse en demi-teinte depuis ce matin, quelque peu perturbée par la grève des contrôleurs aériens qui a retenu la présidente Marie-Antoinette Maupertuis et la conseillère exécutive Flora Mattei à Paris. Dommage, car parmi la longue liste des 14 questions orales posées depuis ce matin, il était aussi question des transports, et oui, mais aussi de la politique menée par l'exécutif. En direct de l'Assemblée de Corse, nous retrouvons Paul Hort. Tolipol, pas de gros dossiers ont été évoqués. Les conseillers ont fait en gros la tournée des grands-ducs de l'actualité, on va dire.
Oui, Didier, l'hémicycle ressemble ce matin à une interminable conférence de rédaction où l'autonomie est servie à toutes les sauces. Parmi les sujets posés sur la table, la tour génoise de Tomine, datant du XVIe siècle, un projet privé devait la transformer en meublé de tourisme, une mobilisation populaire a stoppé la machine. La conseillère de la majorité, Anne-Laure Santucci, s'inquiète de cette prédation sur le patrimoine insulaire. Seule solution, le transfert total de la compétence culture, selon la conseillère exécutive Antonia Luciani. Quant à Cori Fronte, Serena Battistini revenait aux nouvelles après le coup de gueule de son parti il y a 15 jours. À 2 km de la résidence secondaire de Gabriel Attal à Cala di Chiliu, l'élu vise ce qu'elle nomme la répression contre les nationalistes. Gilles Simeone, qui s'est posé en avocat de la paix, a rappelé qu'il avait rencontré récemment le Premier ministre. Le chef du gouvernement lui a certifié qu'il serait totalement engagé dans le processus politique. DSP maritime ou bilan du schéma montagne, les questions orales ressemblaient ce matin à des débats de conseil général, mais la température monte doucement. La droite attaque la politique d'investissement de Gilles Simeone et sa faible utilisation du PTIC. Xavier Lacombe, d'ailleurs, vient juste de tirer à boulet rouge sur l'exécutif. Gilles Simeone, justement, doit évoquer cet après-midi la continuité territoriale avec deux rapports. Un exercice de funambule, demander à augmenter les dotations d'État d'une région de droit commun, tout en revendiquant un statut d'autonomie.
Merci Paul. Le nouveau patron de Casino, Philippe Palazzi, à Bastia, cet après-midi, il vient rencontrer les trois syndicats représentatifs des 1300 salariés de l'enseigne en Corse, le STC majoritaire, la CGT et FO. Cette visite intervient au lendemain de l'annonce du projet de réorganisation qui menace entre 1300 et 3300 salariés sur le continent, on voit cela dans un instant, des annonces qui ne concerneraient pas la Corse, qui ne concernent pas la Corse, puisque c'est ici le groupe Codim 2 qui détient l'ensemble des 19 enseignes présentes dans l'île. Et aucune information ne filtre pour les salariés, des salariés de plus en plus inquiets, Clémence Gourdon-Legrini.
Le climat est de plus en plus pesant dans les magasins, nous confient les représentants du personnel qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Où en sont les négociations? Qui sont les repreneurs? Combien sont-ils? Toujours 4 ou bien 3, voire 2, comme le disaient les bruits de couloir? Y aura-t-il une vente globale ou une tant redoutée découpe? Les postes seront-ils conservés et dans quelles conditions? La liste des questions est longue, mais aucune des trois organisations syndicales ne croit réellement obtenir des réponses claires dès aujourd'hui. S'ils avaient une annonce à nous faire, ils nous auraient reçus tous ensemble, estiment les syndicats, rappelant qu'il leur avait d'abord été promis que le nom du repreneur serait connu fin mars. Du côté du groupe Casino, on confirme bien ces rendez-vous, mais on assure qu'il s'agit d'une simple visite, sans annonce particulière. Ce qui est certain, selon les syndicats, c'est que les annonces faites pour le continent ne présagent rien de bon pour la Corse, où la masse salariale serait là aussi trop élevée.
Alors, au total, entre 1293 et 3267 postes vont être supprimés chez Casino au niveau national, la fourchette est large. parce qu'il faut attendre de connaître le nombre de magasins et d'entrepôts qui pourront encore être repris d'ici septembre. Tous les hyper et supermarchés n'ont pas été vendus à Intermarché, à Auchan et à Carrefour. Hier, l'intersyndicale indiquait que 26 magasins restaient en vente, 8 n'auraient aucune touche de la part d'un éventuel repreneur. Alors, devant le siège de Casino, hier matin à Saint-Étienne, les sentiments étaient partagés. En tout cas, il y avait du mouvement, Aurélie Jacquan.
Beaucoup d'allées et venues, on voit passer la directrice générale des enseignes Casino, mais pas de commentaires de la part de Magali Dobinet-Salen.
Nous avons tenu les réunions telles que c'était attendu, donc voilà, pas de mots particuliers, les réunions d'information auprès de nos collaborateurs se passent.
La porte se referme, on reste dehors. C'est Nadine qui nous décrit ce qui se passe à l'intérieur, dans les bureaux. Presque un soulagement à l'annonce des 1000 postes conservés au siège de Saint-Étienne.
Il y a eu beaucoup de larmes, parce qu'il y a quelques mois, on était tous licenciés, et puis maintenant, il y a un peu d'espoir.
Même si après 42 ans, elle ne sait pas si elle va garder son poste à la comptabilité.
Et l'attente est longue. On aimerait vraiment savoir quand, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire. Voilà.
D'autant que les syndicats doutent des chiffres. 3267 postes supprimés. Laurent Milazzo, délégué CFDT, n'a pas la même calculatrice.
Moi, je pense qu'on sera au-dessus des 3000. Parce qu'il y a des magasins, on nous a annoncé aussi qu'un magasin qui était prévu en reprise Intermarché, l'adhérence est retirée. Et donc, du coup, ça va faire encore un magasin de plus qui va rentrer dans le PSE, donc c'est encore une centaine d'emplois. Casino essaye toujours de trouver des repreneurs pour ces magasins-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, au niveau des chiffres, on ne sait pas.
Ce qui est sûr, c'est que 4 entrepôts logistiques vont fermer, aucun dans la Loire, mais ça devrait concerner environ 740 salariés.
Oui, prochaine étape au niveau national, les 6-7 mai, les suppressions de postes devraient être précisées, puis le plan de sauvegarde de l'emploi, le PSE, sera négocié courant mai-juin. Cela pourrait prendre 4 mois, selon les syndicats. Les suites du Tiamé Responde entre la préfecture de Corse et la Chambre de commerce sur le niveau de sécurité de l'aéroport d'Ajaccio. Après la mise en cause de l'État, le constat de la CCI qu'une internalisation d'un service de la sûreté à très court terme de l'ensemble des missions d'inspection filtrage est prévue. C'est le STC de la société Sapsur, l'actuel délégataire, qui s'insurge de la remise en cause du travail des agents de l'aéroport Napoléon. Selon la section syndicale, la principale cause du problème vient du cruel manque d'effectifs auquel nous devons faire face depuis bientôt 2 ans. Le STC Sapsur dit encore « Nous avons toujours effectué notre travail consciencieusement en respectant les mesures de sûreté qui incombent aux missions régaliennes. Nous sommes désolés des répercussions qui impactent nos usagers ainsi que les compagnies aériennes ». On change de sujet. Direction l'extrême sud. Hier soir, les élus de Porto-Vecchio ont approuvé la dernière mouture du PADD. C'est le projet d'aménagement et de développement durable qui est un préalable au PLU, le plan local d'urbanisme de la cité du Sel. Prévision, la cité du Sel prévoit d'arrêter le 25 juin prochain son PLU. Dans une commune qui, on le sait, concentre plus de 60% de résidences secondaires, il était devenu et il devient de plus en plus difficile de se loger à l'année. Le futur PLI doit y remédier. Maire de Porto-Vecchio entre 97 et 2004, aujourd'hui dans l'opposition, Camille de Rocazer ne veut pas opposer les résidences principales aux résidences secondaires. De son côté, Jean-Christophe Angelini estime que la corrélation est inévitable.
Les résidences secondaires sont essentiellement sur le littoral. C'est pas là où il y a les services publics. C'est loin des écoles, c'est loin de tout. Ce qui a entravé la résidence principale, c'est qu'on n'a pas fait assez. On avait un peu perdu de vue qu'il fallait continuer à en faire. C'est reparti dans les années 2015 à peu près. Aujourd'hui, il faut continuer. Si on me dit qu'il y a peut-être eu trop de résidences secondaires, peut-être. À ce moment-là, on diminue aujourd'hui le nombre de résidences secondaires, mais ça n'est pas de tout arrêter. C'est économiquement ce qui tient aussi le BTP. Par contre, c'est parce qu'il faut s'investir davantage sur la résidence principale. Et pour ça, il faut acquérir du foncier.
Moi, je pense que le coût du foncier, que la consommation foncière, que le coût de la construction sont, entre autres aspects, directement impactés par un phénomène de création exponentiel de résidences secondaires dans la décennie 2011-2021 pour à peu près 200 hectares d'urbanisés à Porto-Vecchio, 85% l'ont été au profit de la résidence secondaire. Donc on voit bien qu'il y a une tendance entre guillemets naturelle qui était en train de s'installer et qui allait nous conduire à terme à une forme de dépossession.
Intervention recueillie par Julien Castelli. Comment limiter le surtourisme à Venise? Un jour moyen Simplement moyen. Il y a 40 000 visiteurs dans la ville pour moins de 50 000 habitants. À partir d'aujourd'hui et pour une trentaine de jours, de très forte affluence, week-end des ponts en particulier, Venise devient payante. Visiter la ville pour la journée, c'est 5 euros pour les plus de 14 ans. L'objectif est de dissuader ceux qui viennent quelques heures et qui peuvent reporter leur voyage. Alors comment fonctionne cette nouvelle mesure ? Présenté comme un test, reportage à Venise, Bruno Duvic.
La taxe sera due jusqu'à 16 heures. Sont exemptés les 260 000 résidents de toute la région Vénétie. C'est trop pour Matteo Secchi de l'association d'habitants venetia.com.
Ce sont eux qui font augmenter de manière disproportionnée le nombre de personnes certains jours. On se fiche du monde.
Vous êtes exemptés si vous dormez à Venise. L'hôtel peut vous fournir la preuve, un QR code. Bruno tient un établissement dans la lagune.
C'est une perte de temps. Ça ne règle rien. Il faudrait un nombre limite de personnes en plus de ces 5 euros. C'est juste pour faire rentrer de l'argent.
La mairie jure que le coût de la mesure est supérieur aux 700 000 euros attendus et non à un numerus clausus. On ne ferme pas la ville. C'est une première étape, dit Michele Zuin, adjoint aux finances.
Nous voulons savoir combien de personnes exactement sont dans la ville. Cela servira pour la deuxième étape en 2025. Il y aura un seuil de visiteurs. En dessous, vous payez moins 2 ou 3 euros. Au-dessus, vous payez 10 euros.
Les contrôles seront légers, l'amende commence à 60 euros.
On parle de logement maintenant, et tout d'abord, sachez que le site pour avoir ces informations est réservé à Venise, c'est cda.ve.it, on peut le consulter aussi en français. On parle donc maintenant logement, je le disais en titre, quelques 400 logements étudiants manqueraient chaque année. À Corte, hier, la création d'un observatoire territorial du logement des étudiants de Corse a été officialisée, université, Crous, ville, région. Comcom, ainsi que l'ADIL et la Banque des Territoires ont signé la création de cet outil qui était très attendu dans la cité Pauline. Prix, offre, destination. Les travaux menés durant 3 ans doivent permettre d'orienter les politiques publiques, les initiatives privées aussi en matière de création de logements dans une micro-région où la problématique universitaire et touristique se croise, se côtoie, explique Julien Paolini, le président de l'Agence de l'urbanisme de la Corse, l'AUE, qui est chargé de mener ce travail aux côtés de l'Agence d'information sur le logement.
Des logements à réhabiliter ou combien la construction de nouveaux logements, à quel endroit, combien la commune mène en parallèle la réalisation de son plan local d'urbanisme qui va permettre déjà de donner quelques éléments de réponse. Ensuite, à quel prix les logements, quelle typologie, des petits logements, des grands logements, quelle concurrence avec le marché touristique, notamment avec les meublés de tourisme, entre une année universitaire, je dirais, qui se termine relativement tôt et une saison estivale qui a tendance à s'étendre. Comment se répartit cette offre de logement pour ces deux publics très différents qui n'arrivent pas au même moment dans l'année ?
Alors, dans le centre Corse, le marché a évolué. Le prix de vente médian des appartements a doublé depuis 2010, selon les premiers travaux de l'Agence de l'urbanisme et de l'ADIL, l'Agence d'information sur le logement de Corse. Et le marché immobilier s'est orienté vers des logements plus grands face à une période universitaire qui débute en pleine arrière-saison touristique et qui se termine dès le mois d'avril, alors que les touristes ne sont pas encore là. Évolution prise en compte par le maire de Corte, Xavier Poli, dans son nouveau plan local d'urbanisme.
Nous avons tenu à ce que le PLU, en dehors des contraintes réglementaires auxquelles tout le monde est soumis, nous comme d'autres, ce PLU prenne en compte le programme de développement de Corte et de la ville université pour les 15 ans qui viennent, qui intègre bien évidemment tout l'aspect relatif au logement étudiant. On a constaté qu'au début, pour faire court, au tout début, il y avait surtout des T1, avec des conditions qui ne sont plus bien évidemment adaptées aux besoins et aux nécessités des logements d'étudiants d'aujourd'hui. Donc tout l'enjeu de cette OTLE, ça va être de nous fournir les éléments d'aide à la décision très précis pour que nous puissions adapter les politiques publiques que nous allons mettre au service du développement de la ville et de la ville université.
Une offre raréfiée, des prix à la hausse, des étudiants de plus en plus précaires et de nombreux constituants. Cette équation compliquée que l'Observatoire devra aider à résoudre. Les premiers résultats sont attendus pour novembre. Et puis on revient ce midi sur ce sujet avec le directeur du Crous de Corse, le Centre Régional des œuvres universitaires et scolaires de Corse, Marco Paul Lugiani, interrogé par Hélène Battini.
Marc-Paul Lougiagne, bonjour.
Bonjour.
L'Observatoire du logement étudiant, vous en parliez depuis un moment, vous l'attendiez, il était temps, le besoin est important.
Oui, c'est une construction de 2 ou 3 années avec en liaison avec la municipalité et l'université principalement. D'autres partenaires, vous verrez s'ils sont agrégés. Il était temps de faire un bilan, parce que nous constatons un fort état de tension, mais il était temps de faire un bilan statistique et d'avoir aussi des projections pour bénéficier d'un outil de pilotage qui nous aidera à la décision à moyen et à long terme.
Oui, parce que vous, sur le terrain, ce constat, ce besoin notamment en logement, vous le constatez tous les jours.
Oui, il y a actuellement sur Corté un fort besoin, fort état de tension sur le logement. Chaque année, en juin, nous avons 2000 demandes pour 400 logements. En septembre, nous avons une liste d'attente de 300 logements. Malheureusement, des étudiants en attente de logement et dont les situations sont des fois compliquées. Donc,
qu'est-ce qu'ils deviennent, ces étudiants sur liste d'attente?
Eh bien, ils trouvent ils font appel un peu au système D, la solidarité familiale, le train qui est gratuit, le covoiturage, les campings, les gîtes. Enfin, il y a vraiment tout un panel de solutions bis qui se mettent en place, mais qui en mode dégradé, dirons-nous.
On parle de logement à loyer modéré. C'est ce qui est attendu, puisque le premier chiffrage que vous faites, c'est sur les étudiants boursiers.
Oui, nous proposons actuellement des chambres de 12 mètres carrés à 200 euros, des studios de 20 mètres carrés à 400 euros. Ce n'est pas le cas dans le privé, mais ça, c'est l'offre et l'offre et la demande. Et plus il y aura un état de tension, et malheureusement, plus les prix risquent d'augmenter sur le parc privé.
Cet observatoire, il permettra donc d'affiner le constat et d'avoir un outil pour y remédier.
Oui, parce que le but, c'est d'avérer le constat, puis aussi de ce que nous allons demander, nous, à notre prestataire, qui va faire une étude sur 3 ans, c'est surtout de nous proposer, on les envisage un peu ou prou, mais de nous proposer des solutions et aussi des statistiques qui puissent être opposables aux bailleurs privés pour leur dire aidez-nous à combler le trou.
Oui, parce que ça ne pourra pas passer uniquement par le public. Vous avez un projet, une centaine de logements engagés, mais on l'a compris, vous attendez de l'initiative privée, voire du partenariat.
Oui, nous réalisons actuellement une résidence de 100 logements. Nous avons un besoin de 400. Donc, bien sûr, le compte n'y est pas. Et depuis plusieurs années, je lance des appels, des bouteilles à la mer. D'ailleurs, je viens presque en rupture de stock. Je veux dire, des partenariats publics, privés, même privés en location avec le CROUS. Enfin,
entre les lignes, vous le constatez, finalement, le marché, il a changé à Corté.
Le marché, il a changé. Malheureusement, Corté s'est développé, mais sur du logement familial. Nous voyons champignonnés de partout, sur toute la périphérie de Corté, des grandes barres d'immeubles avec des logements qui proposent des F3, F4, F5. Les étudiants ont été un peu oubliés, ça il faut le dire, et c'est ce que j'espère, c'est ce que constatera le prestataire, par exemple.
C'est dû au fonctionnement de la fac aussi, aujourd'hui, de plus en plus court, on est au mois d'avril, c'est déjà presque fini.
Il y a deux choses. La fac se développe, donc il va avoir un besoin de logement. Nous avons dépassé nous sommes partis de 300 étudiants, nous sommes à plus de 5000. Avec Parcoursup et la paupérisation de la population locale, les étudiants vont rester de plus en plus à Corté, donc il faut des logements. Voilà, ça c'est un premier constat.
La ville le prend en compte sur son PLU notamment.
Oui, la ville le prend en compte. C'est pour ça que la municipalité a voulu travailler avec le CROUS puis l'université pour faire cet observatoire et aussi travailler sur le fond. Donc nous sommes tous au fait de ce problème.
Le logement, donc finalement un souci de plus. Hein. Vous parlez de paupérisation, la situation étudiante, on la connaît. L'Aiuto Studenti ne fonctionne à plein régime et ne suffit pas. Vous avez abordé la question du train, des transports. Là aussi, on va construire, mais pour ce qui est finalement des transports pour les étudiants, pas de bus à Corté.
Il n'y a pas de bus à Corté. Il y a eu une tentative privée, mais qui a fait pchit au bout de 6 mois. Il y a des lignes, il faut le dire, il y a des zones qui sont délaissées, notamment l'extrême sud.
Vous êtes partie prenante, vous y travaillez ?
Sur le transport, c'est plutôt l'université, mais le CROUS a été sollicité. Ça, c'est plutôt la compétence CDC sur les transports, mais vous avez raison, c'est un tout. On ne peut pas créer des logements, créer des salles de classe et ne pas pouvoir faire venir nos étudiants.
Merci.
Merci à vous.
Le 5 mai prochain, la Corse commémorera les 32 ans de la catastrophe de Fouriane. Il est 18 morts et les 2300 blessés, comme chaque année. Hommages, rencontres de foot, tournois, conférences sont organisées dans l'île, dans les jours qui suivent et qui précèdent le 5 mai. Ces commémorations débutent aujourd'hui avec ce matin des rencontres avec les scolaires à Fouriane pour évoquer le drame. Si en Corse, les commémorations du 5 mai font partie de notre histoire, de notre devoir de mémoire, le collectif a travaillé ces dernières années pour que, du côté de Marseille, soient également organisés des événements. Et cette année, et dans les mois à venir, cela devrait être le cas. Josefa Guidicelli est la présidente du collectif du 5 mai avec Christophe Guidicelli.
Depuis plusieurs années, nous avons eu plusieurs échanges avec l'Olympique de Marseille. Et beaucoup d'actions vont être concrétisées, à savoir une vidéo qui va être transmise dans tout le stade lors de leur prochain match le 11 ou 12 mai prochain au stade Vélodrome. Et cette vidéo sera aussi retransmise sur leurs réseaux sociaux. Donc ça va avoir un impact très important parce que cette vidéo, elle retrace la tragédie de Fouriane et tout le travail du collectif. Il y aura aussi bientôt un lieu qui sera dédié en hommage aux victimes de Fouriane, parce qu'à Bastia, on a la stèle de Fouriane, mais pour le moment, à Marseille, au stade Vélodrome, rien n'a été effectué. Ben, ça sera. Il y a quelque chose qui va naître bientôt. Et aussi, ils ont beaucoup apprécié ce que l'on faisait avec le rectorat de Corse, notre journée avec les collégiens. Et l'Olympique de Marseille souhaite réaliser cette même journée, sur le même modèle, faire venir des collégiens au stade Vélodrome et les sensibiliser avec ces différents ateliers.
On les connaît, on change de sujet, on les connaît proches des cercles polaires et pourtant une aurore boréale a été observée et photographiée en fin de semaine dernière depuis la Corse. Vous voyez la photo sur notre site internet. C'est un phénomène très rare, très très rare dans nos latitudes, mais qui pourrait se reproduire dans les prochaines semaines, Marion Galland.
C'est un passionné d'aurore boréale, habitant de l'Aupignac, qui a capturé l'image. Un halo rouge et rosé qui se détache du ciel et enveloppe la crête des montagnes. Si les aurores boréales sont connues dans les cercles polaires, il est possible d'en apercevoir plus au sud, comme l'explique Lucien Loudiani du club d'astronomie d'Ajaccio.
Les aurores boréales peuvent être vues très au sud parce que ça dépend de l'intensité de la lumière. C'est le vent solaire qui provoque, qui produit des aurores. Et il se trouve justement que nous sommes en train d'aller vers le maximum d'activité solaire.
Et pour Lucien Loudiani, ce spectacle est unique au monde.
C'est absolument magnifique. J'ai coutume de le dire quand nous faisons des soirées au club d'astronomie, que c'est le plus beau spectacle que la nature puisse offrir.
Le pic d'activité solaire va s'étaler entre cet été et le printemps 2025. Les observations d'aurore boréale depuis la Corse seront donc à nouveau possibles. Le phénomène reste toutefois exceptionnel, mais Lucien Loudiani encourage les Corses à lever les yeux vers le ciel.
Ah oui, bien sûr, il faut encourager les gens à regarder le ciel. Il faut regarder le ciel le soir, entre 21h et minuit, un peu plus si on est courageux. Et on pourra très certainement voir des aurores depuis la Corse.
Et sachez que les couleurs des aurores boréales varient en fonction de l'entrée des particules solaires dans les différentes couches de l'atmosphère. Elles peuvent donc être vertes, rouge, bleu ou encore de couleur mauve.
Allez, troisième rendez-vous, Marie-Ladine, ou de la semaine, depuis Naples, à l'occasion de l'Assemblée Générale de la COPEAM. Jérôme Souzigny y a rencontré Michel Rubirola, adjoint au maire de Marseille.
Naples, qui a été la semaine dernière un lieu de rencontre de plusieurs médias de Méditerranée, mais aussi de villes. Marseille et Naples se sont rapprochés, explique Michel Rubirola, adjointe à la ville de Marseille.
C'est aussi le deuxième axe de mon déplacement à Naples, c'est le rapprochement entre les villes de Marseille et de Naples, qui sont des villes similaires, je vais pour dire c'est des villes de cœur. Et nous sommes en très 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 bonne voie, puisque j'ai rencontré hier le maire de Naples, qui est tout à fait favorable à un rapprochement entre Marseille et Naples, vu du fait les mêmes similitudes des villes, les mêmes problématiques et les mêmes enjeux. Réchauffement climatique, pollution, surtourisme, accueil des migrants, enfin, culture, cuisine, enfin plein de choses à développer ensemble. Je pense que la population marseillaise sera contente parce qu'il y a une forte communauté d'origine napolitaine qui n'attend que ça, qui n'attend que le rapprochement avec sa ville sœur et pour qu'ensemble on puisse avancer dans toutes les problématiques qui nous concernent. On le voit ici, le réchauffement climatique, le surtourisme, comment gérer ce surtourisme. Nos villes sont de plus en plus belles, sont de plus en plus prisées. Et c'est vrai que ça entraîne pas mal de difficultés pour les populations. La Airbnbisation des logements, la difficulté pour la population locale à trouver des logements décents, parce que c'est plus facile de loger son logement une semaine à des touristes hyper chers que de le loger régulièrement à la population locale. Donc c'est vrai que c'est vraiment un axe que Marseille combat et Naples aussi combat. Donc je suis ravie de ce rapprochement. Marseille et Naples, c'est l'axe Europe-Afrique. La Méditerranée, c'est ce qui nous unit, ce qui permet de faire ensemble et de comprendre l'autre.
Bien des points communs entre toutes ces villes, toutes nos villes, effectivement, peut-être trouveront-elles des solutions ensemble.
Voilà pour l'information à 12h25 sur RCFM. Dans quelques instants, à 12h30, vous avez rendez-vous avec le Club de la Presse. Comme chaque semaine, on fait une large revue de l'actualité insulaire. Invité ce midi, Jean-Vitus Albertini, Gabriel Xavier Coulioli et Anne Chabanon. Un Club de la Presse présenté, animé par Hélène Battini.